Bonjour et en particulier bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Bonjour aussi à ceux qui nous visitent, peut-être en congé, en vacances ce matin. Et puis, bienvenue dans la chaleur fraternelle qui nous anime tous ce matin à l'image, j'espère, de cette canicule que nous traversons ces jours-ci. Alors, il y a 15 jours... Je crois que c'était il y a 15 jours, j'avais partagé quelques réflexions sur la persévérance. Marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, et même jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort martyr. Et Fred, qui s'occupe des versets à placer sur le mur de cette salle, m'avait demandé quel verset illustrerait ma prédication, et je lui avais dit... Apocalypse chapitre 2 verset 10, il ne reste que le point de Apocalypse 2.10. Peut-être que un jour, dans quelques millénaires, les archéologues pourront reconstituer le verset à partir de ce point, comme les anthropologues reconstituent un corps animal ou humain entier à partir d'un petit bout d'os. Mais le verset c'était « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne » de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et j'avais relevé quelques versets qui parlaient de persévérance. Par exemple, Jésus qui dit, donc dans Matthieu 24, il parle de la fin des temps, de son retour, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et le contexte de la plupart de ces versets mentionne la persécution, l'épreuve, le découragement, parfois aussi, l'expérience de ceux qui quittent le Seigneur par crainte de l'épreuve et de la persécution. Et puis l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, à la fin de cette deuxième lettre à Timothée, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Et puis encore Jésus qui dit « Que vos reins soient sains, vos lampes allumées. » Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Là, c'est la soudaineté, c'est la surprise. On ne sait pas quand le maître va revenir, mais il faut être prêt. Alors, l'image des reins sains, c'est l'image de celui qui se prépare à un voyage. Aujourd'hui, on dirait peut-être... attachez votre ceinture, hein, voilà, parce que quand on attache sa ceinture, on est prêt à partir. Vos lampes allumées, c'est la nuit. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Et puis encore d'autres textes, notamment celui dans Hébreux chapitre 10, où là aussi dans un contexte de persécution, l'auteur de cet épître écrit « Souvenez-vous de ces premiers jours ». Ou après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même, persécution des chrétiens. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. J'aime bien cette façon de décrire... l'attitude de ces chrétiens, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la mort, être fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours, comme le précise un cantique. Et puis j'avais terminé, je crois, par un texte qui se trouve dans 2 Timothée au chapitre 2, que j'aimerais méditer avec vous ce matin, du verset 11 au verset 13. L'apôtre écrit « Cette parole est certaine ». On pourrait traduire aussi « cette parole est digne de foi » ou « digne de notre confiance », c'est-à-dire qu'on peut mettre toute notre confiance dans cette parole. Alors, quelle est cette parole? si nous sommes morts avec lui, donc avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cette parole est aussi adressée à Timothée dans un contexte de persécution. Paul est en prison. Et quelques versets précédents, verset 9, il dit « Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Je souffre. Oui, la condition d'un prisonnier, encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, encore ça dépend des pays, « Je souffre » est une souffrance. Et il était considéré comme un malfaiteur alors qu'il souffrait parce qu'il était chrétien au nom de l'Évangile. Il encourage donc de sa prison Timothée et l'église d'Éphèse, dont Timothée était le pasteur, à persévérer jusqu'au bout et même jusqu'au martyr. Au verset 10, donc un peu plus haut, il écrit « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. » Curieux. Je supporte tout. Non, c'est pas la période du chant. Je supporte tout à cause des élus. Qui sont les élus? Ce que Dieu a choisi, ce que nous sommes et ce que nous appelons aussi à rejoindre le royaume de Dieu. Je supporte tout à cause des élus pour qu'ils obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voilà la promesse, la gloire éternelle. Double perspective donc du chrétien. Le chrétien sert son Seigneur à cause des élus. Il fait partie de ses élus, il fait partie d'un peuple et aussi dans la perspective de la gloire éternelle. Jésus est le centre, l'auteur de ce salut. Et il est celui qui nous anime de son esprit. Alors je reprends maintenant ces trois versets que j'ai lus, puisque l'apôtre appelle Timothée et les chrétiens à être fidèles, à vivre pour le Seigneur, sachant que le Seigneur nous prépare une place. Et Jésus nous dit, là où les vers et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne dérobent pas, et il concluait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, où est notre trésor? Dans le Seigneur? Dans les biens spirituels? Dans la gloire à venir? Ou est-ce que notre trésor se trouve dans les biens matériels, dans les biens de ce monde, qu'un jour, de toute façon, il nous faudra tous quitter, puisque nous ne pouvons rien emporter dans la mort? Alors cette parole, dit l'apôtre Paul, est digne de foi. Nous pouvons lui faire confiance. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. D'emblée, nous pouvons remarquer la relation qui doit exister entre le chrétien, exprimé ici par le « nous », il s'exprime de façon globale au nom des chrétiens, « nous », si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc, nous et lui, une relation intime qui doit exister constamment. Mort avec le Seigneur, nous le sommes. Et je me suis souvenu d'un cantique qu'on chantait autrefois, dans les ailes de la foi, très joli nom pour un recueil de cantiques, les ailes de la foi, 373 pour les anciens. Mort avec Christ. D'une mort volontaire, je vis au ciel, déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Magnifique parole qui commence, comme l'apôtre Paul, sans doute inspiré de ce texte de Timothée, pour dire que le commencement de la vie chrétienne est une mort avec Christ. Une mort d'abord à nous-mêmes, à notre vie passée, à peut-être notre volonté, puisque en appartenant au Seigneur, nous voulons faire sa volonté d'abord, que Dieu règne dans notre vie, mais mort avec lui par substitution, puisque Jésus est mort pour nous à notre place et que dans ce sens, nous sommes morts avec lui. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 2 verset 13 où il dit « enseveli avec lui par le baptême », le baptême étant le témoignage de cette mort, hein. On ne peut être enseveli que si on est mort. C'est terrible d'être enseveli si on n'est pas mort, hein. Mais en général, on est enseveli parce qu'on est mort. On n'ensevelit pas ceux qui ne sont pas morts. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes réveillé ou ressuscité en lui par la foi de l'action de Dieu qu'il a réveillé d'entre les morts. Ce que Jésus a vécu le week-end de Pâques, nous l'avons vécu aussi lors de notre conversion. Et alors, si nous sommes morts avec lui, eh bien nous vivrons aussi avec lui. C'est une promesse, c'est une réalité que nous connaissons déjà, sans attendre le moment où nous serons réunis à Christ. Alors, vivre avec Christ, c'est vivre dans la communion avec lui. C'est le considérer comme notre maître, notre Seigneur. C'est nous nourrir de sa parole. C'est accepter les épreuves qu'il nous envoie. Et je suis toujours étonné de voir l'importance des épreuves subies par l'apôtre Paul. Il faut relire quelques-uns de ses témoignages pour mesurer l'importance de ces épreuves. Et pourtant, il était conduit par Dieu. Et Dieu aurait pu lui épargner bien des épreuves, ne serait-ce que pour le bien de la progression de l'Évangile. Eh bien non, il écrit ici en prison. Et en prison, il aurait pu, comme on dit, ronger son frein, se lamenter, dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je devrais être sur le terrain missionnaire !» Non, il profite de ce temps de prison, je ne dis pas pour se reposer, mais en tout cas pour écrire, pour prier, pour partager avec ses frères et sœurs, auprès et au loin. Et puis, nous savons aussi que cette vie avec Christ sera pleine et entière que lorsque nous serons réunis dans sa présence glorieuse. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Pas simplement le fait de dire « mais je suis converti, j'appartiens au Seigneur, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai été baptisé ». Cela ne suffit pas. On reconnaît un arbre à ses fruits, dit Jésus. Et les fruits sont reconnaissables au moment des fruits, à l'automne, hein, ou en été. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La vie chrétienne doit être aussi vécue dans la durée, dans la persévérance. Et la promesse est faite à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et déjà dans l'enseignement de Jésus, nous l'avons évoqué tout à l'heure, dans des textes comme Matthieu 24, ou encore Matthieu 19, Matthieu 22, Luc 22, pardon, où Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La vie chrétienne est une marche continuelle avec le Seigneur, et donc une persévérance jusqu'au bout. Troisième strophe de ces paroles qui sont certainement un hymne, ou on peut dire aussi une hymne, qui était probablement chantée ou récitée à l'époque de l'apôtre Paul, et que nous avons ici probablement aussi en partie. Si nous persévérerons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. La perspective est plus sombre. Si nous le renions, les exhortations de Paul sont riches en avertissements contre des déviations doctrinales, morales, qui équivalent à un rejet du Seigneur. Il suffit de relire quelques exhortations ou encore dans l'épître de Pierre. Oui, le Christ Jésus peut donc être renié. Et pas seulement par une rébellion ouverte en disant « mais je ne le connais pas ». Et on peut peut-être aussi penser là au reniement de l'apôtre Pierre. Mais par des œuvres qui manifestent le contraire d'une vie chrétienne, qui sont en opposition à ce que le Seigneur demande. Alors ici, je crois qu'il ne s'agit pas de d'infidélité passagère. C'est un reniement assumé, maintenu dans le temps. Et Jésus avait lui aussi averti. Et ici, il avertit par la bouche de l'apôtre Paul, la conséquence, c'est que si nous le renions, lui aussi nous le reniera. Et je pense aussi à ce texte qui dit, mais certains diront, Seigneur, 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 je t'ai connu, je même prophétisé en ton nom. Et Jésus dira, je ne te connais pas, car la connaissance est une connaissance de relation, une connaissance d'intimité, et une connaissance aussi de fidélité au Seigneur. Mais venons maintenant à la troisième strophe. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il y a comme trois originalités dans cette dernière strophe. Tout d'abord, elle ne suit pas la logique des deux précédentes strophes. Il y avait comme un équilibre, une logique. Hein. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Tout ça semble logique. Maintenant, si nous sommes infidèles, on aurait pu s'attendre à dire, ah ben lui aussi sera infidèle. Non. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. La logique de Dieu défie souvent la logique des hommes. Si deux et deux pour les hommes font quatre, quoique on m'a dit que ce n'était pas toujours le cas, eh bien deux et deux ne font pas toujours quatre pour Dieu. Ici, ce qui est différent aussi des deux autres strophes, c'est que l'attitude divine s'exprime au présent et non plus au futur. Il y avait, si nous sommes morts, nous vivrons, c'est un futur. Si nous persévérons, nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera, c'est un futur. Maintenant, si nous sommes infidèles, non pas il demeurera, mais il demeure fidèle. C'est un présent, donc un présent actuel. Si nous sommes infidèles, l'infidélité, elle peut être comprise au sens fort, qui rejoint le reniement. Ça peut être, en tout cas, le mot veut dire absence de foi, donc incrédulité, refus de Dieu, trahison des engagements pris pour le Seigneur. Et certains textes, pour ceux qui prennent des notes, Hébreux 3, versets 12 à 15 et verset 19, je les aurais probablement lus s'il n'avait pas fait si chaud ce matin, mais vous pouvez le lire peut-être dans la fraîcheur de votre maison, enfin je ne sais pas si c'est possible, ou de votre véhicule. Mais on peut comprendre aussi cette infidélité dans un sens plus faible, comme un comportement décevant que Dieu ne saurait approuver, mais qui peut encore laisser place à un retour sur le bon chemin, car Dieu est toujours le Dieu du pardon, même en cas de reniement. Et l'exemple de l'apôtre Pierre est éloquent dans ce sens, où Dieu, bien sûr, accorde et redonne à Pierre la place qu'il lui avait annoncée. Le deuxième sens me semble aller mieux dans le contexte de ces trois strophes, en raison du temps présent, parce que c'est maintenant, parce que si nous sommes infidèles, lui, Dieu, demeure fidèle. Dieu est fidèle aussi, même pour l'infidèle. Et si le dernier élément, il ne peut se renier lui-même, rompt le rythme, bouscule la structure, il laisse, je crois, dans ce texte, ce qui est essentiel. Le message essentiel de cet hymne, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. Il reste fidèle, qui ne peut faire autrement que d'être fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle aussi à sa personne. Et c'est vrai que quand Paul écrit « Si nous le renions, lui aussi nous reniera », il est fidèle à sa parole en disant cela, puisqu'il avertit. Mais il est fidèle dans sa fidélité. même lorsque nous sommes infidèles, pour nous accompagner dans l'épreuve, pour nous aider, pour nous protéger, pour nous relever. Et combien de personnes infidèles ont pu se rendre compte de la fidélité de Dieu ou de la sollicitude de Dieu à leur égard? Et s'il est fidèle dans sa justice, et la logique des deux éléments parle aussi de cette logique de justice, il est aussi fidèle par rapport aux pécheurs repentants qui l'entourent de ses bras. Et je pense particulièrement à cette parabole du fils prodigue, où l'infidélité de ce fils qui est allé pour dépenser tout l'héritage du père, et comme tout à l'heure dans la parabole citée par Fred, dans la parabole du fils prodigue, le père, c'est Dieu qui dit, bon, si tu veux dilapider le bien que j'ai mis entre tes mains, je te le donne, voilà, vas-y, fais-en ta tête. Mais ce fils, une fois qu'il a tout dilapidé, rentre en lui-même, réfléchit et se dit, je vais retourner chez mon père. Et j'aime particulièrement le tableau de Rembrandt, le fils prodigue. Tableau d'ailleurs qui a été à l'origine de la conversion d'un homme, j'ai oublié son prénom, c'est un Canadien, son nom de famille c'est Nouven. Il a écrit un livre d'ailleurs très beau sur le fils prodigue et il s'est converti en regardant ce tableau qui était au musée de Saint-Pétersbourg, donc aujourd'hui en Russie je crois, ou en Lituanie, enfin un de ces pays. J'aime particulièrement ce tableau car si vous l'observez attentivement, vous voyez que le père entoure de ses deux mains, le fils il les serre dans ses bras. Et si vous regardez attentivement ces deux mains, vous voyez qu'elles ne sont pas pareilles. L'une est rugueuse, un peu grossière, c'est la main d'un travailleur qui travaille la terre, c'est la main d'un homme fort. Mais l'autre main a des doigts fins, c'est des doigts maternels. C'est des doigts qui symbolisent les mains maternelles et ce père ici est à la fois père et mère qui entoure de son amour ce fils prodigue qui revient à la maison. Alors si Dieu est fidèle dans sa justice, c'est vrai, il est avant tout dans son amour qui pardonne et qui entoure de ses bras le pécheur repentant. Ainsi, l'apôtre Paul, dans ses trois strophes, appelle à la fidélité jusqu'au bout, en dépit des épreuves. Et il nous appelle aussi à l'émerveillement devant la fidélité de Dieu. S'émerveiller devant la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la beauté des promesses de Dieu. Vous savez, tout à l'heure, quand Fred a lu le psaume 139, je me suis émerveillé. Non pas tant alors qu'il y aurait sujet à le faire, devant la beauté de ce psaume qui célèbre la grandeur de notre être humain, mais je me suis émerveillé de ce que David, le roi David, a pu écrire un tel psaume. Alors c'est vrai, Dieu l'a inspiré, mais quand même, ce roi qui était un guerrier, qui a fait des guerres, ce roi qui a péché, terriblement, ce roi qui a combattu, qui a été combattu même au sein même de sa plus proche famille, était un homme de Dieu remarquable, qui a laissé des traces de prières, de psaumes, qui sont des réflexions sur Dieu, sur la vie qu'il avait avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que nous savons encore nous émerveiller devant ce que Dieu fait ? Et devant la grandeur de son amour. Psaume 31, verset 20, « Oh, combien est grande ta bonté !» Psaume 36, verset 6, « Ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » J'aimerais que nous chantions dans les J'aime, le numéro 400, un cantique qui rappelle cette bienveillance, cette fidélité de Dieu. Levons-nous pour le chanter et si nous avons des infidélités, eh bien recherchons la fidélité. Si nous avons des épreuves ou des doutes, recherchons aussi la fidélité. Restons fidèles jusqu'au bout, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout, qui règnera avec le Seigneur. Plaçons-nous devant le Seigneur en chantant ce cantique.